comme ça. Bah, par exemple, il y a des personnages qui sont des animaux, mais qui sont des animaux, voilà, des rois animaux. Ils ont des partenaires animaux, ils ont des partenaires qui sont des chattes, etc. Bon, voilà. Par exemple, aussi, on retrouve du vocabulaire tout à fait charmant, comme le suruquet, qui est vraiment, voilà, auquel on ne peut pas résister. Et ben, chez Gordwenor Smith, par exemple, on retrouve, alors en traduction, là, on retrouve le terme cranché, avec le fil à crancher, par exemple, et ça aussi, ça place devant une espèce d'interprétation poétique du monde qui pourrait être le nôtre, qui est juste un tout petit peu mis en étranger, en étrangeté par rapport au nôtre, et qui fait comme ça cette ouverture vers des forces possibles, vers des ailleurs qui sont ici même et qui peuvent être travaillés, quoi. Donc j'ai croisé Gordwenor Smith, donc j'ai embarqué avec les sondeurs et les seigneurs de l'instrumentalité, et j'ai été encore plus puissamment emportée dans cette espèce de saga comme ça à multiples personnages qui ont des durées de vie dignes de Mathusalem chez Volodin. Et puis la quête, du coup, l'épopée même, devient l'histoire de l'épopée, c'est-à-dire qu'elle agit, mais elle agit comme forme, et elle agit comme trace. Et ça aussi, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de passionnant dans cette littérature-là, c'est de voir la construction du texte par persistance, par écho, par souvenir. Mais quelque chose de cette mémoire-là, de la mémoire des groupes politiques, de la mémoire de ce qui aura été tenté pour l'action et qui peut-être aura été défait, mais pas si vainement qu'on pourrait le croire, parce que cette empreinte-là, ben voilà, elle est transmise aussi. Donc c'est une sorte d'épopée gauchie qui reste comme passage d'un héritage. Et voilà, je suis sensible vraiment à ça. Bon, alors après, il y avait le récit flottant. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un travail sur la logique qui, là aussi, enfin, pour moi, vraiment, est complètement passionnant. C'est-à-dire, il paraît que le boulot des poètes, c'est de faire sauter le principe de non-exclusion des contraires. Et si on se lance dans cette logique-là, c'est-à-dire que si on commence à travailler la logique en n'excluant pas la conjugaison ou la composition des incompatibles, qu'est-ce qu'on ouvre ? Qu'est-ce qu'on essaye de construire comme possibilité de représentation du monde, de représentation de notre carte mentale et de notre grille de lecture, quoi, de nos cadres de lecture. Et ça, je trouve que peut-être c'est la justesse du travail littéraire que de faire bouger les cadres de l'imaginaire, parce que c'est par là que peut-être peuvent commencer les ressources et les forces, et peut-être que c'est par là aussi que peuvent commencer les constructions nouvelles, tout ce qui est de l'ordre du nouveau. Ça aussi c'est quelque chose à quoi la littérature de Volodin m'engage. Et puis la méfiance envers la leçon de l'histoire, la leçon de la vérité, la leçon du réalisme. Et là on parlait tout à l'heure de Gerd Neumann, un poète et écrivain est-allemand, qui a comme ça un travail sur l'affirmation qui entre en écho avec le travail sur l'affirmation que je trouve dans les œuvres de Volodine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est énoncé, qui est gauchi, il se maîtrisa, il fit semblant de se maîtriser. Il y a toujours une espèce de scrupule, mais qu'est-ce que c'est qu'affirmer? Et est-ce qu'on peut conduire cette espèce de mise en doute, de précaution sur le pouvoir pouvoir assez tyrannique du terme, justement, du terme qui clôt, qui englobe. Donc voilà, ça c'est sur le plan vraiment de la logique, et là aussi il y a vraiment quelque chose, il y a une méfiance envers la netteté, méfiance envers tout ce qui est assis, et du coup on peut avoir du nostalgique et du comique composés ensemble, on peut avoir du chamanisme évoqué avec le matérialisme dialectique, on peut avoir on peut avoir du trivial qui vient faire cette espèce d'effet de ping-pong sur des passages qui sont extrêmement lyriques, dans lesquels on s'embarque très musicalement, et non, on n'ira pas atterrir là, on ira couper d'une redescente triviale comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui fait une grande énergie dans cette exploration d'une logique qui cherche à ne pas exclure les contraires. Et puis, et une fois qu'il y a ça, c'est-à-dire l'utopie qui est énoncée-dénoncée, et elle est énoncée-dénoncée dans le même mouvement, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, de quoi on peut s'occuper en littérature, voilà, moi c'est la question que je me pose, quoi, de quoi on peut s'occuper finalement. Peut-être qu'on peut s'occuper de ce qu'est l'expérience d'écrire, et ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'émeut, ce qui me touche vraiment profondément, c'est que je lis dans certains passages des récits de Volodine le cryptage de l'expérience d'écrire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui de temps en temps vient faire intrusion et perce comme ça le tissu du récit par les multiples personnages qui sont en train de raconter. Et qu'est-ce que c'est aussi que certains moments où on est en train de lire ce qui va être la bifurcation de l'écriture. Tiens, j'ai peut-être passé par là. Non, finalement, ça marchera par là. Ou alors, en train de lire ce qui peut-être est pensé du rapport difficile avec le destinataire du récit. Peut-être que le destinataire du récit, c'est le lecteur. Mais alors le destinataire est toujours dans un jeu extrêmement paradoxal. Il est à la fois commanditaire, à la fois torsionnaire. Et là, c'est quelque chose que je retrouve chez Beckett dans Commencer. On est engagé physiquement dans un duo entre un corps et son bourreau. Et puis le bourreau, c'est l'écriture. Et puis le bourreau, c'est le lecteur, et puis le bourreau, c'est soi-même. Et le texte raconte le temps à tenir, les parties, il y a trois parties. Elles sont longues, etc. Et je retrouve ça, et enfin, ça, encore une fois, c'est vraiment très émouvant pour la lectrice que je suis.